vous reprendrez bien un peu de science-fiction. Aujourd'hui, c'est fiction. Le robot avec le cœur. Bon, ce coup-ci, j'ai vraiment vu ma fin. Et merci pour la diversion, petit bonhomme, hein, même si c'était pas volontaire. Ouais, je te taquine. Merci à toi, mais fais gaffe quand même. T'as eu de la chance, ce coup-ci. Bon, professeur Roman est parti, et le vagabond fonctionne tant bien que mal. Va quand même falloir trouver un doc pour vraiment le remettre en condition, parce que là, Roman a joué le jeu en m'envoyant la vraie bonne pièce. Il pensait peut-être repartir avec le vagabond. Mais bon, ça n'a pas résolu tous les problèmes. Et une fois trouvé le lieu, il faudra que je trouve quand même une âme charitable pour m'aider. Non. J'ai promis à ton père de ne jamais te mettre en danger. Je t'ai déjà fait courir assez de risques. Non, c'est non. En 2020, vous avez connu un événement inédit jusque-là dans l'histoire humaine. À un niveau mondial tout du moins. Le confinement. C'est étonnant comme ce terme, surtout connu dans l'industrie, a, en quelques jours seulement, revêtu un caractère anxiogène, voire angoissant pour beaucoup d'entre vous. Ces environ 50 jours d'enfermement pour la bonne cause laisseront pour ceux qui l'ont vécu un sentiment particulier. À la fois soudain, bien que les signes avant-coureurs étaient visibles, la décision sera abrupte et avec très peu de préavis. Mais aussi sans fin, pour ces personnes astreintes à vivre dans un logement clairement pas conçu pour ça, voire avec des personnes pas franchement dans les meilleures dispositions, voire hostiles. Combien de citoyens ont dû suivre une psychanalyse pour tenter de résorber les effets néfastes, forcément, de ce moment? Un peu partout, vous avez vu fleurir des initiatives pour essayer d'égayer les journées mornes et infinies pour les plus fragiles. Tant bien que mal, l'obstacle a été franchi. Et chacun de jurer la main sur le cœur qu'on ne l'y reprendrait plus. Mais voyez-vous, l'humain a la mémoire courte. Oh, les divers confinements plus légers qui ont suivi dans les mois ou années suivantes ont été abordés de manière plus sereine. Et ce sont des décennies qui vont passer sans qu'une pandémie mondiale ne sévisse de retour. C'est l'année 2078 qui verra arriver le nouveau virus dévastateur. Celui-là ne sera pas la conséquence d'un croisement interespèces inopiné ou d'une expérience de labo qui aura mal tourné. Ce virus, la fièvre de la taïga, sera une des conséquences à la fois si prévisible mais si discrète, au début en tout cas, du réchauffement climatique. Pas étonnant que son éruption n'ait pas été détectée, tant les dérèglements météorologiques se faisaient brusques et de plus en plus nombreux. Il fallait d'abord s'occuper des effets immédiats et spectaculaires. Tempêtes, incendies, inondations, blizzards, voire tout ça en même temps. On a rapporté qu'au Canada, un incendie monstre sera éteint par une tempête de neige. Alors que le permafrost commence à fondre au fin fond de la Nouvelle-Russie, là où il y a plus de rennes au kilomètre carré que d'humains, pas grand monde ne s'en est ému. Sauf les climatologues du coin. Et il aurait fallu pourtant. C'est par là que la fièvre de la taïga va débouler, et le mot est faible. Officiellement, le premier cas de la FT, pour fièvre de la taïga, va être identifié à Sertolovo, une bourgade au nord de Saint-Pétersbourg. Il s'agit d'un homme revenu d'une partie de chasse au bord du lac Ladoga. Les cas suivants seront ses amis qui ont participé à la même partie de chasse. Le premier cas aura l'infime honneur de survivre à la fièvre pendant 7 jours. 7 jours d'une torture indicible, de douleurs inapaisables, de crampes et tout le barnum imaginable que peut provoquer une maladie inconnue qui par définition ne dispose pas encore de traitement. L'agonie aurait pu durer quelques jours de plus, et par commisération, les médecins impuissants ont accepté la demande du patient zéro, comme on le dénomme officiellement, pour mettre fin à ses jours. Comble de l'horreur, les produits censés arrêter son cœur n'ont été d'aucun effet. La FT, comme on le découvrira plus tard, a la fâcheuse tendance à maintenir son hôte en vie, pour profiter de tout ce qu'il a à lui offrir, entre guillemets, et le patient zéro n'avait visiblement pas encore tout donné. C'est par l'asphyxie que les médecins vont stopper le supplice du malheureux. Ces mêmes médecins qui seront les victimes suivantes de l'AFT. Les autorités vont rapidement prendre la mesure du phénomène et vont, pour une fois, réagir vite et bien. La Nouvelle-Russie aura au moins eu ça de bon, une administration compétente. Mais, oui, parce qu'il y a toujours un mais, il suffit qu'un malade passe entre les mailles du filet pour que tout barrage sanitaire devienne inefficace. Un malade qui, n'ignorant pas les premiers symptômes, voudra quand même fuir Saint-Pétersbourg. C'est quoi le but de la manœuvre ? Tu es malade, tu habites Saint-Pétersbourg, tu ne connais quasiment personne en dehors de la ville. Tu penses que si tu vas assez loin, la maladie va laisser tomber en se disant « Oh, c'est bon, il est parti vite et loin, je ne vais pas me biler pour lui. » Perdu. Elle va te suivre, mon petit gars. Et toi, tu vas la répondre partout où tu passes. Un bon messager bien docile et consentant. Ce ne sera pas le seul, bien sûr. Mais ce sera le premier qui portera la FT au sein du métro moscovite. Et à partir de là, c'est open bar. Le séquençage ADN du virus va lui attribuer la paternité, si on veut dire, de la variante Moscou. 12 148 victimes avérées au dernier comptage. Vient ensuite la litanie habituelle des déclarations officielles des péremptoires. Le virus est loin, il n'arrivera jamais chez nous. On va mettre des contrôles en place aux frontières. Il se rapproche, mais il ne passera pas la frontière. Il est à nos portes, mais nos procédures sont strictes et infaillibles. Il n'entrera jamais, faites-nous confiance. Bon, il y a un cas. Bon, il y en a 5. Mais pas un de plus, hein. Bon, il y en a 10. Et ainsi de suite. L'Europe va se confiner comme un seul homme, le 14 juillet 2078. En France, ce sera le 15 juillet. Fête nationale oblige. Un virologue va calculer que ces 24 heures coûteront 487 vies. Calcul toujours contesté par le corps médical. Au vu de la violence du virus, le confinement est prévu pour durer 3 mois minimum. Ce chiffre va faire frissonner, mais rétrospectivement, il aurait pu faire sourire. Achille, c'est le nom du premier bébé conçu et né à terme durant le confinement. Je vous laisse faire le calcul. Alors, les vidéos, les sketchs, les recettes de pain fait maison partagées durant le confinement du Covid-19, on va vite en faire le tour. Il va falloir quelque chose de plus, comment dire, péchu, pour rattraper toute la population qui glisse lentement et gentiment vers un état d'apathie, voire de dépression pour les plus atteints. Frédéric Marchal et Gunther de Vries sont à ce moment que deux ingénieurs parmi tant d'autres. Ils travaillent au sein de l'entreprise Positronium, basée à Erfurt en Allemagne. La société Positronium est à l'origine une entreprise qui développe des sous-systèmes d'interaction homme-machine pour les plus grands fabricants de robots domestiques. Elle fut l'un des concurrents malheureux de l'appel d'offres du programme Jericho, le fameux système censé gérer le mur entre les États-Unis et le Mexique. Mais vu la tournure que ça a pris, les dirigeants d'entreprise se sont sentis soulagés. Pour ça, je vous conseille d'écouter l'histoire de Giacometti. Ils ont donc choisi de s'orienter plus vers les robots domestiques. Bien leur a pris. Au début du grand confinement, Frédéric et Gunther se sont retrouvés au chômage technique. C'est en fouinant sur Internet qu'ils vont tomber sur l'étude du professeur Chaumet publiée en 2042. Le professeur Chaumet était un psychologue de renom. Il avait acquis la considération de ses pairs à l'apparition d'une étude intitulée « Implication relationnelle et restitution de l'affect dans un contexte à huis clos » ou « Comment un robot peut sauver une vie ». Son analyse, bien qu'audacieuse, a mis en avant de manière médicale les bienfaits de l'implication robotique dans un contexte social chargé. Dans le document, le professeur Chaumet a esquissé une ébauche d'équations qui pourrait permettre de créer la meilleure solution robotique empathique. N'étant pas mathématicien et encore moins programmeur, il n'avait fait que jeter les bases de l'équation. Pourquoi personne à l'époque n'a pris l'initiative de concrétiser cette équation ? Mystère. Toujours est-il que les deux ingénieurs vont se pencher sérieusement sur le sujet. C'était pas vraiment un souci, ils avaient du temps devant eux. Il leur faudra 4 mois pour sortir la première version du programme qui, basée sur la fameuse équation, leur permettra de générer l'IA 2043-01. Toute première itération qui jettera les bases d'une future révolution. Mais ça, pour le moment, ils l'ignorent. Au fil des expérimentations et améliorations, ce ne sont pas moins de 14 versions qui verront jour, pour parvenir à un résultat pas seulement satisfaisant, mais proche de la perfection. Leurs ambitions étaient élevées, tout comme les contraintes médicales qui régissaient le domaine des supports émotionnels. Tellement de charlatans avaient tenté leur chance avec des produits au mieux bâclés, voire carrément dangereux. Une fois les autorisations officielles délivrées, il faudra lui donner consistance à cette IA. Cela va encore être un parcours de combattant. Il va falloir créer un robot, pas trop grand, pas trop petit, avec une bonne bouille, mais pas neuneux non plus. Il doit être avenant, plaire au maximum de gens, tout en ayant un design bien marqué. Assez chétif pour ne pas paraître menaçant, mais aussi assez résistant pour endurer la vie quotidienne d'un foyer. C'est-à-dire les jeunes enfants, les assistants domestiques et tout ce qui arrive dans un cadre familial mais que personne n'a envisagé. C'est ainsi que plusieurs mois vont passer pour enfin déboucher sur la présentation officielle de Placato, nom inspiré du latin placator, ce qui apaise. Les Placato ont une forme vaguement humaine. Ils n'ont pas de bouche. Des études réalisées quelques années plus tôt avaient constaté qu'un robot qui parle par le biais d'une bouche, ça gêne, voire ça fait peur. L'anthropomorphisme étant poussé trop loin, la barrière entre vivant et machine devenait trop fine. Au mieux, un petit haut-parleur fixe en guise de bouche, mais le côté figé de la chose n'était pas encore le plus avenant. Les deux ingénieurs ont opté pour une solution plus simple. Pas de bouche du tout, et un haut-parleur dissimulé d'où sortiraient des onomatopées. Quelques borborygmes et sifflements avec différentes intonations qui seront bien assez suffisants pour communiquer. Et cela réglera aussi le problème de la traduction vu que le robot serait vendu dans le monde entier. Autre détail qui a son importance, le robot pouvait tenir une manette de console de jeu. Il aurait très bien pu être équipé pour se connecter à une console par Bluetooth, mais il était important que la personne qui jouait avec lui pouvait le voir bouger et réagir. Un degré supplémentaire d'interactivité. Cerise sur le gâteau, les Placato seraient constamment reliés à un service de soutien psy H24 pour répondre aux angoisses de la propriétaire. Et dans ces périodes compliquées, les robots pourraient offrir de petits ballons en forme de cœur stockés dans leur abdomen. Image du petit robot qui tiendra un cœur qui deviendra iconique pour leur contribution au soulagement des divers troubles psy. Dire que le robot va être un succès commercial est un doux euphémisme. Toutes les usines robotiques du monde vont tourner à plein régime pour pouvoir fournir un placato à chaque terrien qui en demandera un. Car oui, le succès est mondial. Toutes les cultures vont voir en lui un moyen de survivre à ce grand confinement. Il arrivera toutefois un peu tard, mais de l'aveu des clients, il aura sauvé beaucoup de vies et empêché de très nombreuses personnes de tomber dans une grave dépression. À la sortie du grand confinement le 25 juin 2079, 3 milliards de Placato auront été construits. Un exploit technologique et industriel qui doit beaucoup à l'automatisation extrême des moyens de production. Confinement oblige. Et c'est tout logiquement que le 10 décembre 2079, Frédéric Marshall et Gunther de Vries recevront le prix Nobel de la paix. Récompense un peu étrange, mais il s'agissait surtout d'une démarche symbolique, pour les remercier de leur œuvre. Une fois passée l'euphorie post-confinement, on s'est dit qu'on serait prêt à affronter un nouvel épisode d'enfermement sanitaire, sans vraiment y croire. C'est pas possible que ça recommence. On a appris de nos erreurs, on est trop intelligent pour se faire avoir une nouvelle fois. C'est tout à fait juste. Le problème, c'est que ce n'est pas un nouveau virus qui va disparaître. C'est plutôt d'une disparition dont il va s'agir. Pour ça, je vous conseille d'écouter l'histoire du faucheur. Placato n'avait pas été conçu pour ce cas spécifique, mais une mise à jour lui permettra d'exceller dans ce nouveau rôle. Celui de réceptacle des âmes perdues, comme on a appelé les oblitérés. Comble de l'ironie, Gunther de Vries, qui avait envisagé d'autres réplications au Placato, contre la vrille de Frédéric, fera partie des oblitérés. La période qui suivra l'oblitération verra la production de robots atteindre des records. En 2085, pas moins de 6 milliards de Placato seront sortis des usines. Mais vous allez me dire, pourquoi produire autant de nouveaux robots vu le nombre de ceux qui se sont retrouvés « orphelins » entre guillemets lors de l'oblitération ? C'est un premier problème que l'on va déceler. Les robots ont été programmés pour être fidèles à leur maître, entre guillemets, un peu à l'image d'un chien. Une dévotion sans faille, à la limite de l'abnégation, qui verra les robots orphelins se mettre en veille pour certains, partir dans une errance sans fin pour d'autres, voire un crash total de l'intelligence artificielle et ainsi la désactivation pure et simple de la majorité des robots. Pendant des mois, il ne sera pas surprenant de voir ça et là des Placato errer dans les villes ou les campagnes jusqu'à ce que leur batterie flanche et qu'ils ne s'effondrent sans prévenir. Autant de carcasses inanimées qui vont rester sur place comme des petits monuments funéraires à la mémoire des disparus. Il s'agissait là du premier problème. Premier parce qu'il va y en avoir un autre et un peu plus sérieux. Il y avait déjà eu quelques retours d'expérience lors du grand confinement. On avait constaté chez certains propriétaires de robots une dépendance affective envers ce dernier. Des propriétaires qui se sont retrouvés complètement désemparés alors que leur Placato subissait une panne. Cela peut arriver et statistiquement sur le nombre de robots produits, il est normal que certains se soient révélés défectueux. Mais dans plusieurs cas, cela relevait plus du deuil que de la simple frustration. Il a été révélé que certains propriétaires de robots se sont suicidés dans un accès de désarroi catastrophique. À l'époque, on avait mis ça sur le compte du stress provoqué par le grand confinement. En période de crise sanitaire et de confinement qui plus est, les plus faibles vont commettre l'irréparable. Ces cas seront noyés dans la masse. C'est dans la période post-oblitération et après la mise à jour que ce problème va être révélé au grand jour. Et que les dirigeants vont enfin voir les signaux qui étaient présents depuis bien longtemps. Le problème en question, les Placato étaient trop efficaces. Ça peut paraître contre-intuitif dit comme ça, mais c'est vraiment le cas. Les robots étaient de trop bons soutiens émotionnels. De base, leur niveau d'empathie était élevé. Il fallait aider les gens. Mais après la mise à jour, le niveau crèvera le plafond. Non contents de réagir aux crises d'angoisse, ils vont les anticiper, comme s'ils connaissaient leur maître mieux qu'eux-mêmes. Au point de brider leurs sentiments, d'étouffer dans l'œuf toute manifestation, un tant soit peu en dehors des limites. Mais après, par glissement, de briser toutes les émotions, qui, bonnes ou mauvaises, font partie d'un processus fin et fragile de reconstruction de soi, après un traumatisme ou une mauvaise expérience. Les robots, bien que persuadés de bien faire, vont transformer une partie de leurs propriétaires en des êtres totalement dépourvus d'émotions, mais terrorisés à l'idée de perdre. C'est lors de la fête de la musique, en France, en 2087, que le phénomène deviendra concret pour le grand public et les autorités. Lors de cette édition, quasiment personne ne descendra dans les rues pour assister au concert, et le peu de public paraîtra totalement apathique. Une campagne de récupération des Placato fut lancée, sans grand succès, logique. Les propriétaires des robots y étaient devenus totalement accros. C'est seulement sous la pression internationale que l'entreprise Positronium va désactiver tous les Placato du monde. C'était un énorme risque. Un sevrage peut mal tourner de plusieurs façons, mais chaque jour qui passait voyait la population mondiale s'enfoncer encore plus dans un état mental catastrophique. Le choc fut rude, mais les pertes furent plus faibles que prévu. La majorité des gens touchés s'en sortant comme s'ils se réveillaient d'un mauvais rêve. Sans surprise, Positronium va couler plus vite qu'il ne faut pour le dire. et des décharges de placato vont apparaître un peu partout dans le monde. Ce qui, fatalement, va poser un sérieux problème de traitement et de recyclage des carcasses. Toutefois, quelques robots vont échapper à l'extinction massive. La mise à jour a échoué sur une série de robots, et les exemplaires n'ayant pas causé de tort à leur maître, ils ne constitueront jamais une menace à leurs yeux et seront épargnés. Ils se feront néanmoins discrets, leur réputation les précédant. Un homme en particulier cachera le sien, avec un soin tout particulier, pas pour le protéger de la vindicte populaire ou des foudres des autorités, mais pour ce qu'il renferme. Victor Lazar était un neurologue de niveau mondial. Victor avait un fils de 6 ans, et ce fils allait bientôt mourir. Souffrant d'une maladie orpheline, il attendait de trouver un enfant qui aurait le sang avec les bonnes spécificités pour le soigner. Et Victor l'avait trouvé. Il allait enfin guérir son fils. Sauf que l'oblitération passera par là et le garçon tant attendu va disparaître. C'en sera trop pour Victor, qui va alors opter pour une solution extrême, qu'il avait jusqu'à présent refusé catégoriquement. Transférer l'esprit de son fils dans un placato. Le hasard veut que l'architecture informatique du robot réponde aux exigences demandées pour une telle opération. Mais avant de la tenter avec son fils chéri, il va devoir le faire le test, grandeur nature. Et pour cela, trouver un robot, facile, et un jeune cobaye, moins facile. Et surtout éthiquement inconcevable. Il va devoir s'y reprendre à deux fois avant de réussir. La première, le transfert va échouer, ce qui va résulter d'un robot guidé à moitié par un programme et à moitié par l'esprit terrorisé d'un jeune garçon. La deuxième fois sera un succès, si on peut dire. Vous êtes un garçon de 6 ans qui se réveille un jour dans le corps d'un robot. À la terreur absolue que cela engendre va succéder une grande période d'incompréhension en tentant de communiquer avec le monde par de simples bruits modulés. Par pitié et submergé de remords, Victor va abréger le supplice du garçon en désactivant le robot. Ces deux expériences vont lui grignoter une bonne part de son humanité. Mais c'est un homme désespéré et il est prêt à toutes les ignominies pour sauver l'esprit de son fils unique. Son fils, briefé avant le transfert, vivra plutôt bien la transition, de manière toute relative quand même. Mais ça, je vous en parlerai lors du prochain épisode. Et c'est ainsi que je me retrouve avec ce robot manorphelin qui est bien décidé à réparer le vagabond. Ce petit bonhomme est quand même bien courageux.